Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Malgré le confinement, nous restons mobilisés pour vous informer, pour répondre à toutes les questions médicales que vous vous posez sur cette épidémie de coronavirus. Et pour m'épauler dans cette tâche sur l'antenne d'Europe 1, il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors au menu du jour, d'abord nous appellerons le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur. Il a mené la première grande étude sur le cluster, le foyer de coronavirus dans l'Oise, en région parisienne, grâce à des tests sérologiques sanguins. Il viendra nous présenter ses conclusions, notamment l'Institut Pasteur conclut que dans l'Oise, le virus circulait probablement dès le début du mois de février. Après ça, nous aurons en ligne une chirurgienne, le docteur Marie Audouin de l'Institut Curie. Elle craint, comme nombre de ses confrères, un dégât collatéral de cette épidémie des Français qui n'iraient plus se faire dépister contre plusieurs cancers. Elle lancera sur notre antenne un appel notamment aux femmes qui doivent rester vigilantes sur certains signes évocateurs de cancer du sein ou même gynécologique. Enfin, vous le savez, dans Sans Rendez-vous, on essaye aussi chaque jour de vous faire du bien. Nous recevrons Léonard Anthony. Il est praticien en hypnose et en autodéveloppement. Avec lui, nous allons essayer de lutter contre la fatigue morale et physique qui est en train de nous gagner avec le confinement. Il va nous donner tous ses meilleurs conseils pour même faire ressortir le meilleur de nous dans cette période si difficile. Et puis, pour finir cette émission, comme tous les jours, on retrouvera Catherine Blanc, notre sexologue, qui va nous parler aujourd'hui de ce qui peut se passer dans certains couples bien établis mais confinés, avec des hauts et des bas en termes de désir.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone, professeur Arnaud Fontanet, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur d'épidémiologie à l'Institut Pasteur et vous êtes également membre du comité scientifique qui conseille donc le gouvernement. Alors aujourd'hui, vous êtes venu nous parler des résultats de l'étude que vous avez menée dans l'Oise, la première réalisée grâce à des tests sérologiques en population. Alors, elle a eu lieu fin mars sur place pendant 5 jours. Expliquez-nous ce que vous avez fait concrètement.
Concrètement, nous avons invité les lycéens, les enseignants et les personnes qui travaillaient dans un des lycées de Crépy-en-Valois où on savait que l'épidémie avait sévi entre février et mars. Et puis on a aussi également demandé aux lycéens de venir avec leurs parents. Beaucoup étaient mineurs, donc pour signer un consentement, il fallait qu'il y ait au moins des deux parents qui soient disponibles. Et puis on leur a dit, si vous avez des frères et sœurs qui sont intéressés, ils peuvent venir également. Donc on a reçu toutes ces personnes dans le lycée, qui ont d'abord reçu bénéficier d'une note d'information pour leur expliquer un petit peu en quoi consistait l'étude, ses objectifs, etc. Signer un consentement, puis après administrer un questionnaire pour savoir s'ils ont eu des symptômes depuis la mi-janvier de maladies respiratoires. Et ça se terminait avec une prise de sang, échantillon qu'on a utilisé pour faire un dépistage des anticorps contre le coronavirus.
D'accord, c'est très clair. Jimmy Mohamed ?
Et donc avec ces tests, vous avez montré que dans l'Oise, là où l'épidémie locale a été très intense, malgré tout, alors que le virus a énormément circulé, l'immunité collective, on en est encore très loin. Quel a été le taux de personnes positives au total, au final ?
Alors, il faut distinguer en fait deux environnements. Il y a eu le lycée, où là, le virus a circulé très activement. On a 38% des lycéens qui ont des anticorps, 43% des enseignants, 59% des personnels qui travaillent dans l'établissement. Donc là, on voit que l'épidémie était très active. Puis ce qui nous intéressait, comme je vous l'ai dit, c'était les familles également des lycéens. Et là, la situation est un peu différente. Quand je prends les parents, par exemple, si le lycéen n'était pas infecté, pour les parents, le taux est de 9%. Si le lycéen est infecté, ça monte à 17%. Et maintenant, je vais prendre des frères et sœurs. Si le lycéen n'est pas infecté, le taux d'infection chez les frères et sœurs était de 3%. Si le lycéen est infecté, vous montez à 21%. Donc on voit bien que la présence d'un lycéen infecté dans l'environnement familial s'est accompagnée d'une augmentation donc de la proportion de personnes infectées dans cet environnement familial. Alors c'est pas, j'ai envie de dire, spectaculaire. C'est pas quand vous avez une personne infectée que tout le monde va être infecté dans le domicile. Mais voilà, on passe de, je dirais pour les parents, une fois de plus, 9 à 17% pour vous donner un ordre de grandeur.
Jimmy ?
Mais du coup, ce qui veut donc dire, vous avez bien expliqué, que la contamination intrafamiliale varie en fonction du statut du lycéen, et plus le lycéen finalement est positif quand il a la maladie, il peut la transmettre. Ça veut donc dire que finalement la maladie se propage malgré tout grâce aux lycéens. Est-ce que ça veut dire que ça reste un foyer épidémique qu'il fallait donc éteindre ?
Alors, non, tout ce qu'on a vu, je pense que dans cette histoire, on est le rôle du lycéen, il était victime en même temps de tout ça. Mais c'est intéressant parce que ça nous dit, c'était aussi une période, vous savez, où il n'y avait pas de... Les gens ne savaient pas que le virus circulait. Hein. On est en février, c'est seulement le 25 février qu'un enseignant d'un collège voisin décède à la Pitié et qu'on réalise qu'il y avait une épidémie en cours à Crépy-en-Valois. Mais l'épidémie, elle a eu lieu avant. Ce qu'on a mesuré là, c'est quelque chose qui a démarré début février, qui a beaucoup monté jusqu'au 14 février, puis il y a eu la fermeture de l'établissement scolaire. Là, on voit le nombre de cas décroître brutalement.
Avec les vacances, ouais.
Voilà. Et puis ça reprend un petit peu. Il y a un confinement qui a été décidé le 1er mars. Là, ça s'arrête complètement. Donc c'est une épidémie qui a circulé en février. Et là, ce qu'on décrit, c'est finalement quand quelqu'un arrive dans une famille et là, sans mesure de distanciation, sans mesure barrière, eh bien, il y a effectivement un risque augmenté pour les proches. Il n'est pas si énorme que certains auraient pu penser. Maintenant, il faut se rappeler que c'est un virus qui, s'il touche une personne vulnérable, peut avoir des complications dramatiques, hein, avec, comme vous le savez, des gens qui finissent en réanimation, voire des décès. Donc je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut... Voilà, il faut négliger ce risque, hein, loin de là, mais ça nous donne quand même une mesure de ce qui se passe finalement à l'état naturel en absence de protection.
Et là, on est dans un lycée, donc on est d'accord, ces résultats sont valables que dans une population plutôt d'adolescents. On ne sait pas trop ce que ça donne finalement, comment, à quel point ça circule chez des enfants plus petits, par exemple.
Alors tout à fait, le lycéen finalement, l'adolescent, il se rapproche plus de l'adulte que de l'enfant. Par rapport à ce virus, hein, on sait qu'ils font des formes cliniques qui sont avec les mêmes symptômes que les adultes, même si les lycéens font rarement des formes graves. Hein, les formes graves, on les voit surtout apparaître après l'âge de 60 ans. Mais la présentation clinique est assez proche et on pense aussi que le portage du virus et éventuellement sa contagiosité chez un lycéen sont proches de celles des adultes. Il y a une très grande étude qui a été publiée récemment en Islande et quand on regarde par classe d'âge quels sont les taux de portage par PCR, par exemple, donc la recherche du virus dans le nez, dans la gorge, les 10-20 ans sont proches des adultes. Chez les moins de 10 ans, on a beaucoup plus de mal à retrouver le virus.
Et professeur Fontané, ce qui est quand même assez frappant, vous l'avez dit, hein, c'est que finalement le virus il a frappé plus fort ceux qui côtoyaient ce lycée, les lycéens dedans, les enseignants, etc. Comment on explique cette différence? Les ados se sont contaminés très fort entre eux, mais ils ont assez peu contaminé leurs proches à leur domicile, c'est ça? Parce qu'ils sont plus en contact, je sais pas, de leurs copains que de leurs parents, contact proche.
Oui, on connaît tous les adolescents, mais en revanche avec les frères et sœurs, vous voyez que bon, ces chiffres ils peuvent se dire un peu dans tous les sens. Quand je vous dis, on passe de 3 à 21%, on multiplie par 7 hein, le risque pour les frères et sœurs. Donc on peut faire dire un peu ce qu'on veut aux chiffres. Hein, mais ce qui est important, c'est vraiment qu'il y ait une transmission très active dans ce lycée une fois que le virus a été introduit. Ça c'est clair dans cette étude. Et qu'il y a une transmission intrafamiliale qui a lieu aussi. Alors maintenant, bien sûr, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer à la réouverture des écoles. Donc vous l'avez bien précisé, on est dans un lycée, ça ne dit rien de ce qui se passe chez les moins de 10 ans, par exemple à l'école primaire. À la mi-mai, quand il va y avoir une réouverture très progressive, d'abord, le virus va circuler beaucoup moins qu'il ne circulait en février dans cette région de France, hein, qui a été très durement touchée et très tôt. Deuxième chose, les lycéens notamment, et puis les enseignants, ils auront appris les gestes barrières, ils auront appris la distanciation sociale. Donc on peut espérer que un virus ne se répandrait pas aussi facilement que pendant cette période de février, où, comme je vous le rappelle, personne n'avait l'idée que le Covid circulait dans ce lycée. Donc néanmoins, l'étude elle nous montre que quand vous introduisez le virus, il peut se transmettre assez facilement et que donc la plus grande vigilance devra être respectée à la fois dans les gestes barrières, dans les mesures de distanciation sociale et puis même dans la détection précoce de foyers qui pourraient naître dans des établissements scolaires.
Merci professeur Fontané, on n'en a pas terminé encore avec vous, on se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, Sans Rendez-vous revient avec une émission toujours consacrée à l'épidémie de coronavirus. Le professeur Arnaud Fontané, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique du gouvernement, reste avec nous. Il nous dira notamment, au vu des résultats de son étude dans ce lycée dans l'Oise, s'il pense finalement qu'il est vraiment possible et raisonnable d'ouvrir certaines écoles le 11 mai. Ça sera juste après, à tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h pour répondre à toutes les questions médicales que vous vous posez sur le coronavirus. Alors il est toujours en ligne avec nous, le professeur Arnaud Fontané. Vous êtes professeur d'épidémiologie à l'Institut Pasteur. Vous êtes également membre du comité scientifique qui conseille le gouvernement. Professeur Fontané, on a parlé donc de votre étude qui a été donc réalisée dans un lycée, sur des profs, les proches de ces lycéens. Bon, j'imagine que vous n'avez pas eu de mal à convaincre ces gens pour la prise de sang, parce que aujourd'hui, de toute façon, on est d'accord, tout le monde voudrait avoir la réponse à cette question. Ai-je eu le Covid? Est-ce que ça sera possible à terme?
Alors, il faut savoir que pour cette étude, on a utilisé des tests qu'on a développés à l'Institut Pasteur, qui sont extrêmement fiables. Je pense qu'on a, on était capable de détecter des anticorps chez quasiment toutes les personnes qui en avaient, et de la même façon, on n'avait pas ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire des tests qui reviennent avec un résultat positif alors que la personne n'avait pas d'anticorps. Ça n'est malheureusement pas le cas encore pour les kits commerciaux qui sont aujourd'hui disponibles. Alors, ils varient les uns et les autres, mais d'une façon générale, on pourrait dire qu'ils vont détecter des anticorps quand ils sont présents 9 fois sur 10. Et puis, ils vont également vous dire 5 fois sur 100 que vous avez un résultat positif, alors qu'en fait, vous n'avez pas eu l'infection par le coronavirus. C'est peut-être cette dernière partie qui est la plus gênante, parce que vous allez faussement croire que vous avez des anticorps et vous pourriez vous imaginer protéger et reprendre des comportements à risque. Donc, avec les kits commerciaux tels qu'ils existent aujourd'hui, on a un problème de fiabilité. Et ces kits vont s'améliorer avec le temps. Hein. C'est l'histoire de développement de tests diagnostiques qui nous a montré que les premiers tests n'étaient pas très bons et ça s'améliore avec le temps. Mmh. La deuxième question qui est compliquée, c'est on n'est pas sûr que ces anticorps protègent. Donc avoir des anticorps, ça dit que vous avez été en contact avec le virus, mais ça ne dit pas que vous protégerait si vous étiez à nouveau exposé au virus.
Et ça, c'est pour ça que vous avez mis en place des tests, hein, des tests neutralisants, c'est ça, une autre sorte de test sérologique, hein.
Voilà, donc on a des tests qui permettent là d'aller à une étape supplémentaire qui voit si les anticorps qu'on a développés sont capables de neutraliser le virus, soit sur des cultures cellulaires, soit sur des milieux qui s'en approchent. Et ça, ça vous dit déjà plus que ces anticorps auront un caractère protecteur. Donc, bon, on est vraiment en train de faire ces deuxièmes parties d'études. Je ne peux pas encore vous révéler le résultat. La majorité des personnes qui ont des anticorps qui sont neutralisants, donc qui sont vraisemblablement protecteurs. On ne sait pas pour quelle durée. C'est un peu tout le problème d'une nouvelle maladie qui arrive, où on est en train de découvrir, et il faut être prudent au début par rapport aux conclusions qu'on peut en tirer.
Jimmy ?
Professeur, pour revenir un petit peu sur l'ouverture des écoles, puisque finalement c'est tout ce qui passionne les gens et je peux comprendre, au 11 mai, le fait de rouvrir les écoles, est-ce que c'est réellement prudent au vu de l'étude que vous venez de nous montrer, puisque finalement on se rend compte qu'un lycéen, lorsqu'il est contaminé, lorsqu'il est malade, il peut assez facilement, et effectivement on peut voir les chiffres en fonction de ce qu'on veut, mais il peut quand même transmettre la maladie facilement à ses frères et sœurs, qui vont peut-être la transmettre à d'autres camarades d'école, qui ensuite vont la transmettre à leurs parents. Donc finalement l'épidémie, elle peut vraiment repartir sur le point de départ des lycéens, vu que les restaurants vont être fermés et que du coup, bah, peut-être que les lycéens, et puis c'est peut-être pire encore chez les collégiens et les élèves en CP, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque finalement un peu supérieur à ce qu'on aurait pu croire au début ?
Alors, je pense que c'est là où je reviens un peu sur les limites que j'avais évoquées dans la première partie de l'émission. Hein. C'est que d'une part, ce que les lycéens nous apprennent ne s'applique pas nécessairement aux élèves du primaire, où on pense que la circulation du virus est moins importante chez les élèves du primaire. Et puis, on va être à la mi-mai dans une situation différente de celle de cette épidémie de février. La circulation du virus a heureusement beaucoup diminué grâce au confinement. Et puis, des personnes ont adopté les gestes barrières, les gestes de distanciation sociale. Mais ce que cette étude nous montre, c'est que si le virus revient, le lycée ou un établissement scolaire est un endroit où il peut effectivement facilement se transmettre. Donc, il faudra également mettre en place des procédures de surveillance pour être capable de détecter un foyer débutant.
Professeur, les lycéens, bon, ok, ils ont peut-être intégré les gestes barrières, mais alors les CP, les grandes sections de maternelle, moi, j'y crois pas du tout. Enfin, on leur a appris certes un peu à se laver les mains, mais une fois qu'ils seront à l'école et qu'ils ont retrouvé leurs copains, enfin, il faut pas compter sur les gestes barrières au sein des établissements pour les plus petits. En tout cas, on est d'accord.
C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse des études chez les moins de 10 ans pour savoir si il y a la même circulation du virus à ces âges-là comparé à des jeunes qui de plus de 10 ans. Il y a une étude qui a été faite en Islande et qui a été publiée très récemment où on retrouve finalement à peu près les mêmes circulations de virus chez les 10 à 20 ans et je pense que c'était plus les 15-20 ans qui étaient concernés que les adultes. En revanche, on retrouve beaucoup moins de virus chez les moins de 10 ans. Donc il y a peut-être là une raison de se dire que cette étude, en tout cas les conclusions de cette étude, ne s'appliquent pas au moins de 10 ans, mais les études restent nécessaires. Moi, en tant que chercheur, évidemment, j'aimerais pouvoir vous répondre avec des données à la clé et pas simplement des suppositions.
Professeur Fontané, vous avez dit tout à l'heure que donc chez la plupart des gens testés qui avaient eu des signes ou peu de signes du virus, il y avait eu des anticorps qui ont été retrouvés. Néanmoins, il y a vraiment encore beaucoup d'interrogations, vous l'avez dit vous-même, hein, sur cette immunité conférée par la maladie. Est-ce qu'il est possible que certaines personnes qui ont eu des formes légères, voire asymptomatiques, n'aient vraiment aucune immunité du tout ?
Alors, On pense effectivement que l'immunité va être corrélée à la sévérité de la maladie que vous avez eue. Donc des gens qui ont eu des formes plus sévères auront vraisemblablement plus d'anticorps et des anticorps capables de neutraliser le virus. Maintenant, on est en train de faire ces études chez des personnes qui ont fait des formes mineures de la maladie. On retrouve des anticorps et on les retrouve aussi avec un caractère neutralisant. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on s'est rendu compte que parmi le groupe des personnes qui avaient été infectées, il y en a 17% qui n'avaient eu aucun symptôme depuis janvier, qui donc étaient ces formes qu'on appelle asymptomatiques de l'infection par le coronavirus.
Jimmy ?
J'ai l'impression que le salut viendra à soi du hasard avec l'épidémie qui va s'éteindre avec les beaux jours, je n'en sais strictement rien, en tout cas on peut l'espérer, soit d'un traitement, mais on a l'air d'être un petit peu loin, mais peut-être la piste la plus sérieuse c'est celle du vaccin. Est-ce que vous pouvez nous dire si en ce moment à Pasteur vous avez un bon candidat justement d'une vaccination, notamment d'un vaccin qui partirait de la rougeole, est-ce que les choses sont dans de bonnes voies?
Alors je voudrais juste revenir sur la première partie de votre question, qui est le hasard, c'est malheureusement quelque chose sur lequel je ne vais pas compter. Alors, il y a beaucoup de choses qui nous échappent, ça j'en suis parfaitement conscient, mais il est clair qu'on ne va pas se dire, on ne sait jamais, peut-être que finalement ça va s'éteindre tout seul. Non, je pense qu'il va falloir rester extrêmement vigilant dans les semaines qui viennent, parce que le confinement tel qu'il a eu lieu a finalement réussi à faire diminuer considérablement la transmission, mais finalement nous a ramené à la case départ. C'est-à-dire que, comme c'était dit tout le monde, d'ailleurs 10% des adultes, si je prends les parents d'enfants qui n'ont pas été infectés, eh bien 10% des parents étaient infectés dans un village, enfin dans une ville où le virus a beaucoup circulé. Donc on est très loin de cette immunité collective qui nous protégerait, qu'on constitue entre 60 et 70%. Effectivement, le salut, il peut venir peut-être d'un traitement qui permettrait au moins déjà de prendre en charge les personnes infectées et d'éviter les formes graves, et d'un vaccin qui, lui, permettrait d'acquérir cette immunité collective que malheureusement on n'aura pas, parce qu'on ne va pas avoir des vagues épidémiques de l'ampleur de celle-ci pour à chaque fois n'avoir que 10% de personnes en plus infectées. Et ce vaccin, on y travaille à l'Institut Pasteur. Il y a effectivement un vaccin sur un vecteur rougeole qui avait déjà été utilisé pour d'autres agents pathogènes, notamment le chikungunya, où il est en phase 3. Et là, on a des espoirs pour 2021, mais c'est 2021, c'est-à-dire que vraiment, les mois qui viennent, c'est des mois où on va devoir garder un contrôle extrêmement strict sur le virus, parce que je ne voudrais pas laisser le hasard décider pour nous.
Merci beaucoup, professeur Fontanet. Effectivement, mieux vaut ne pas laisser le hasard décider pour nous. Merci d'avoir été avec nous pour répondre à toutes ces questions. Merci encore.
Merci beaucoup, au revoir. Europe 1.
Dans un instant, nous aurons en ligne une chirurgienne, le docteur Marie Osdoy de l'Institut Curie, qui craint comme nombre de ses confrères que de nombreux Français n'aillent plus se faire dépister contre plusieurs cancers. Elle le rappellera, même en pleine épidémie, plus on dépiste tôt une tumeur, mieux on la traite. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, nous accueillons par téléphone le docteur Marie Osdoy. Vous êtes chirurgienne à l'Institut Curie. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors docteur Osdoy, avec plusieurs de vos confrères spécialistes du cancer, vous avez fait une petite vidéo pour rappeler l'importance du dépistage de certains cancers en cette période de crise sanitaire. Alors avant de détailler les signes sur lesquels on doit, nous, rester vigilants, cette inquiétude, elle vient d'où? Elle vient déjà parce que vous avez constaté vraiment sur le terrain une baisse, je ne sais pas, du nombre de nouveaux diagnostics de cancer, du baisse de consultations?
Exactement. En fait, avec toute l'équipe, et il n'y a pas que nous, il y a aussi tous nos collègues des autres centres, on s'est rendu compte que les gens ne venaient plus consulter. Pour vous donner un exemple, à l'Institut Curie, on a l'habitude d'avoir 50 nouveaux diagnostics de cancer. Je vous parlais juste du cancer du sein, là. Donc 50 nouveaux diagnostics de cancer du sein par semaine. Et la semaine dernière, on a eu moins de 20 patientes, moins de 20 nouvelles patientes.
Donc, alors que d'habitude, c'est régulier, vraiment, c'est à peu près 50 toutes les semaines, tout le temps.
Nos chiffres, c'est en moyenne, sur toute l'année, 50 nouveaux diagnostics de cancer.
Effectivement, donc, c'est très inquiétant. Ça veut dire qu'ils sont là, ces cancers, mais que vous ne les voyez pas encore, quoi. C'est ça, vous ne les voyez pas jusque chez vous.
Ça veut dire que les gens ont des symptômes, ont quelque chose, mais restent chez eux.
Ah oui, c'est terrible. À l'Institut Curie, par exemple, il faut le dire, justement, pour rassurer ceux qui nous écoutent, il faut dire que vous vous êtes organisé, dans les autres centres anti-cancer aussi d'ailleurs, pour que la sécurité des patients soit garantie, on veut dire du risque virologique, c'est ça?
Absolument, à l'Institut Curie, dans les autres centres, dans les hôpitaux, mais les médecins de ville aussi, tout est organisé. Nous, par exemple, on a deux entrées, une entrée pour les soignants, une entrée pour les patients. Quand les patients rentrent à l'Institut, on leur donne un masque, on leur donne de quoi se laver les mains, on prend la température, on regarde si jamais ils ont des symptômes. On a mis en place aussi énormément de téléconsultations. De cette manière, il y a beaucoup moins de personnes à l'intérieur de l'hôpital et en salle d'attente. On fait aussi la distanciation sociale, c'est-à-dire que les patients ne peuvent pas s'asseoir les uns à côté des autres, mais vraiment dans les salles d'attente, on les disperse. Donc on fait un maximum pour diminuer le flux de patients à l'intérieur de l'hôpital. Et ça, ça nous permet aussi d'augmenter la sécurité pour eux.
Jimmy ?
On a beaucoup dit aux Français et aux patients qu'il faut retarder tous les examens non nécessaires. Et si on parle, en tout cas non urgents, si on parle du cancer du sein, par exemple, dans le cas du dépistage organisé pour les femmes qui ont plus de 50 ans, est-ce que la mammographie, c'est un examen qui peut attendre ou pas ?
Alors, ça dépend. C'est-à-dire que nous, dans notre vidéo, on s'est vraiment concentré sur les patientes qui avaient des symptômes. Un symptôme, ça ne peut pas attendre. Un symptôme, c'est une urgence. Le dépistage organisé du cancer du sein dont vous parlez, c'est pour les femmes de 50 à 74 ans qui n'ont pas d'antécédents, qui n'ont pas de symptômes, qui ont toutes des images normales avant. Et dans ces cas-là, elles peuvent retarder de un mois ou deux mois leur mammographie de contrôle. Ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, le dépistage avait été arrêté. Mais c'est une chose d'avoir un dépistage organisé. C'en est une autre d'avoir un symptôme ou une image anormale à l'origine.
Et puis quand on a déjà des symptômes, c'est souvent que le cancer il est déjà là depuis quelques temps peut-être. Justement, c'est quoi les signes qui doivent alerter les femmes, si vous pouvez nous les rappeler très précisément ici?
Alors, une femme, elle doit essayer de s'examiner, donc sous la douche ou quand elle met de la crème, il faut qu'elle regarde si jamais elle sent une boule à l'intérieur du sein ou une boule qui est sous les selles, si le sein est déformé, s'il est rouge, s'il est chaud, s'il y a une cicatrice dessus qui n'a pas de sens, tout ça c'est pas normal. Si jamais il y a un écoulement au niveau du mamelon, c'est pas normal, il faut consulter.
Mais qui alors? On consulte le généraliste? On vient directement chez vous? Comment ça se passe?
Non, vous pouvez consulter le généraliste, vous pouvez consulter votre radiologue, vous pouvez consulter votre gynécologue, vous pouvez même venir chez nous. Si vous avez même peur que ce soit, si vous avez un doute, vous pouvez faire une téléconsultation. Le plus important, c'est de ne pas rester seul chez soi avec un symptôme anormal inexpliqué.
Jimmy ?
Parce que vous dites 50 diagnostics par semaine, habituellement là vous êtes à 20, c'est-à-dire qu'il y en a 30 par semaine dans la nature, et votre crainte c'est que certaines tumeurs qui évoluent très vite, eh bien on les retrouve à un stade beaucoup plus avancé à la sortie de cette crise.
C'est ça. Un cancer, ça doit être diagnostiqué, c'est une urgence diagnostique. Et un cancer qui n'est pas diagnostiqué, ça veut dire un cancer qui va avoir un retard de diagnostic, un retard de traitement. Plus on attend, plus la maladie va s'étendre, on va arriver à des stades plus évolués. Donc ça veut dire que les traitements vont être plus agressifs, que les chances de guérison vont être moins importantes. Il y aura plus de chances de récidive. C'est vraiment une urgence, il faut consulter.
Et parce qu'on est d'accord, plus on consulte tôt, plus on est traité tôt, plus on a vraiment, vraiment des chances de s'en sortir dans le cancer du sein et dans d'autres cancers d'ailleurs. Hein.
Exactement, vous avez les mots parfaits. Plus on consulte tôt, plus on le diagnostique tôt, plus on est traité tôt et meilleures sont les chances de s'en sortir.
Il y a d'autres signes d'ailleurs pour les femmes qui étaient présentes dans la vidéo que j'ai pu visionner. Pour les femmes sur d'autres cancers, des cancers gynécologiques par exemple, c'est quoi les autres signes au niveau du ventre je crois ou des saignements particuliers qui doivent alerter? Ce sont lesquels ces signes-là?
Oui, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup du cancer du sein, mais il y a aussi tous les autres cancers gynécologiques. Et par exemple, si vous saignez après avoir eu des rapports sexuels, c'est pas normal. Si vous saignez alors que vous êtes ménopausée, ce n'est pas normal. Si vous êtes fatiguée, que votre ventre est gonflé sans aucune raison, c'est pas normal. Je parle pas des excès du confinement, mais voilà, tout ça, c'est pas normal. Si vous avez un doute, ne restez pas chez vous, ne vous dites pas que ça peut attendre. Il y a des téléconsultations, tout le monde s'est organisé et on peut répondre aux questions, il faut pas rester chez soi.
Donc on consulte, ça ne peut pas attendre, et derrière les traitements suivront. Vous continuez à traiter les patients qui en ont besoin en urgence, on est d'accord. Vous les opérez, vous faites des chimiothérapies, tout ça a continué, on est d'accord.
Absolument. Toutes les patientes qui étaient traitées avant et qui sont venues avec un diagnostic ont été prises en charge chez nous, ailleurs, partout. De la même manière, il n'y a aucune perte de chance parce que vous avez eu un diagnostic pendant l'épidémie. On prend en charge les patients de la même manière. On continue à opérer, on continue à faire les chimiothérapies, les radiothérapies. Tous les médecins continuent à travailler.
Sauf ceux qu'on peut reporter, parce qu'on est d'accord. Par contre, il y a quand même aussi des patients qui ont des cancers chez qui ça peut attendre. Chaque patient, vous pesez la balance bénéfice-risque, hein, je crois. C'est vraiment très individualisé ce que vous faites aujourd'hui.
Absolument. Le diagnostic est une urgence et chaque patient est pris en charge. Après, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent attendre? Oui, mais il ne faut pas être perdu dans la nature.
Bien sûr. Merci beaucoup, docteur Osdois, d'avoir été avec nous. Le message est passé. Donc, le cancer ne fait pas de pause, hein, lui-même, en période d'épidémie. Alors, vraiment, devant des signes anormaux, il faut consulter. Merci, docteur.
Exactement, merci beaucoup Mélanie. Au revoir.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Dans un instant, votre émission Santé revient et à présent, on va aller sur un terrain très important ici aussi dans son rendez-vous en ce moment, votre bien-être. Pour vous faire du bien, notre invité, ce sera Léonard Anthony, praticien notamment en hypnose. Mais avant ça, on va écouter un peu de musique. C'est le chanteur Antoine Ely, ça s'appelle Paradis.
Allez, allez, viens, on danse, danse comme un jeu d'antan. Y'a plus la joie d'enfant, c'est pas grave. Laisse-toi balader dans le temps, c'est le panard. Tu sais, mon cœur t'attend tant que t'es pas là. Toi, ma fêlure, mon fantôme, toi qui m'as fait fontaine. J'ai le souvenir en photo de ton visage. Dans le vent, j'ai senti ta peau dans mes bras. Vrai ou pas, danse avec moi dans le mirage. Oh, ta voix, t'es dans le ciel, tu voles. Résonne jusqu'en bas. Descends, j'suis au paradis. Oh, j'te vois. Je décolle mes basques du sol, je suis au paradis. Je me dépense et mes pensées se baladent. Mon cœur a jamais le temps de s'arrêter. Et même si t'es pas là, même si t'as pris de l'avance au paradis, sans toi je m'égare. Je garde ton sourire en tête. Et si je pleins par mes gardes, c'est pas la fin du monde. Ta voix d'ange, ça me fait du feu dans le ventre. La tristesse est mortelle, a pas souffert. Ton souffle en descendant a traversé sans doute le sol des dieux, le ciel s'est ouvert. Toi ma voix, mon antenne, je quitterai le monde en terre. Je te rejoindrai chanter nos joies passées. Et avant qu'on m'enterre, je bourrais ma vie entière à t'entendre et me laisser traverser par le haut. Ta voix, t'es dans le ciel, tu voles. Résonne jusqu'en bas. Descends, je suis au paradis, moi. Je te vois. Je décolle mes basques du sol, je suis au paradis. Je me dépense et mes pensées se baladent. Mon cœur a jamais le temps de s'arrêter. Et même si t'es pas là, même si t'as pris de l'avance au paradis, sans toi je m'égare. Je garde ton sourire en tête. Et si je perds par mes gardes, c'est pas la fin du monde. Sorti de sommeil, j'ai des envies de soleil, de ciel, je suis sous les monts souterrains. Ta voix dans mes oreilles, sous les rayons dorés, y a un temps de rêve, un temps de rien. Oh, ta voix, t'es dans le ciel, tu voles, résonne jusqu'en bas. Descends, je suis au paradis, moi. Oh, je te vois. Je décolle mes basques du sol, je suis au paradis. Je me dépense et mes pensées se baladent. Mon cœur n'a jamais le temps de s'arrêter. Et même si t'es pas là, même si t'as pris de l'avance au paradis, sans toi je m'égare. Je garde ton sourire en tête. Et si je pleure par mes gardes, c'est pas la fin du monde.
Ça fait du bien en ce moment, un peu de musique sur Europe 1. C'était Antoine Ely et son titre Paradis.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Alors pour vous aider aujourd'hui et pour prendre soin de vous surtout, on va accueillir en ligne tout de suite Léonard Anthony. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes praticien en hypnose et en autodéveloppement, on est tous confinés hein, donc depuis plus de 5 semaines, c'est usant. On a fait appel à vous parce qu'on était sûr que vous alliez pouvoir nous aider. Vous êtes un grand spécialiste de l'aide, en tout cas au niveau de la fatigue. On vous a interviewé plusieurs fois dans cette émission. C'est fatigant ce qu'on vit en ce moment, hein, mais est-ce qu'on va pouvoir en sortir quelque chose de positif, vous pensez ?
Moi, je crois qu'on peut déjà en sortir quelque chose de positif dès maintenant. Je sais que c'est difficile parfois à entendre parce que des choses terribles sont en train d'arriver, mais on doit explorer cette période pour ne pas se laisser enfermer uniquement dans une démarche négative. C'est indispensable.
Jimmy ?
Mais quels sont les avantages personnels qu'on pourrait tirer de cette situation ? Est-ce que vous avez des exemples ? Parce que tout ça, honnêtement, ça me paraît un petit peu abstrait. Moi, je ne vois que le côté négatif de la chose.
Il est en consultation tous les jours avec des gens malades, alors c'est plus difficile, oui, effectivement. Ça. Il n'a pas le même point de vue, hein, je pense.
Exactement. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut distinguer les gens qui sont en première ligne et en deuxième ligne, qui travaillent par exemple dans les supermarchés, les médecins, les soignants, les gens qui nettoient les hôpitaux, qui n'ont pas du tout le même rapport au confinement que moi qui suis dans ma maison.
Et je pense à l'ensemble des témoignages que je reçois de gens qui sont chez eux et qui découvrent une situation qui est particulièrement épuisante. C'est par exemple, vous télétravaillez de chez vous, vous faites l'école à la maison pour les enfants, c'est des sources de fatigue nouvelles qui s'entrechoquent, et tout d'un coup, vous vous rendez compte que votre gamin n'est pas aussi génial que vous l'imaginez, que la maîtresse, c'est quand même un truc vachement pratique. Et que deuxièmement, télétravailler, c'est pas le rêve non plus, que le contact avec les gens que vous aviez était une source aussi de pause, de respiration. Mais justement, dans cette période-là, si vous êtes confiné, et c'est globalement le moment de le faire, parce que maintenant on est passé dans une autre temporalité, la tente devient plus longue, on a envie de sortir, il fait très très beau, il y a aussi un moment pour commencer à réfléchir au rapport que nous avons au temps. Comment tout d'un coup, pourquoi les choses, beaucoup de gens me disent, le temps passe encore plus vite que quand j'allais au bureau. Et donc c'est intéressant de se dire, attends, est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en place dès maintenant pour que ma vie change et que ce changement soit durable. Et c'est là où on peut discuter si vous le souhaitez.
Vous, personnellement, je sais que parfois vous acceptez quand même de nous parler un peu de ce que vous vivez, ça nous intéresse toujours. Qu'est-ce que vous avez tiré, si vous avez un exemple de quelque chose de positif que vous avez découvert pendant cette période si compliquée?
Moi, j'ai découvert qu'il a fallu que je m'adapte aux choses. Premièrement, comme tout le monde, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. J'étais en résistance face à la situation, donc j'avais évidemment, comme tout le monde, des angoisses, des peurs, des inquiétudes, parce que les informations sont parfois très différentes, même contradictoires. Et j'ai accepté qu'il fallait que je ralentisse mon temps de travail, que je pouvais pas être aussi speed que ça. J'ai commencé par faire plus de siestes que d'habitude, j'en ai déjà parlé avec vous, mais je faisais des siestes de 2 heures, ce qui est chez moi impensable. Mais j'ai accepté cette idée. Et la deuxième chose que j'ai fait, c'est aussi j'ai essayé de changer ma relation au temps que je consacrais à ma famille. Parce que très vite, on se laisse phagocyter par l'ensemble des tâches qui sont là, parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'il faut faire à manger 2 fois par jour, 2 fois la vaisselle.
Oui, c'est donc, clair.
Oui, non, mais il y a toutes sortes de nouvelles tâches qui nous tombent dessus. Et donc, j'ai commencé à lâcher aussi là-dessus en disant, écoute, si c'est pas toujours nickel, c'est pas grave. Parce que sinon, tu vas t'épuiser complètement à vouloir être aussi rigoureux que tu l'es habituellement. Et or, c'est pas une situation habituelle. Il faut accepter qu'on est dans une situation inhabituelle. Et donc, créer des espaces de temps aussi pour être avec ses proches, parce que sinon le temps file entre nos doigts. Et ce dont on pourrait profiter là, nous échappe complètement.
Jimmy ?
Et j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être une petite histoire qu'on aurait loupée, celle d'une pluie d'étoiles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Ah oui, je vais vous raconter, parce que c'est une histoire qui m'est arrivée ce matin. Alors, moi j'ai mon petit garçon qui a 9 ans et qui hier entend à la radio qu'il y a une comète qui est passée en 1870 et qui a laissé une traînée d'étoiles, donc dans le ciel, des poussières d'étoiles, de comètes en l'occurrence, et qu'à 5h du matin, aujourd'hui, on pouvait les voir dans le ciel. Alors vous imaginez, vous levez à 5h du matin, c'est pas toujours évident.
Mais il était très insistant.
Il était très insistant. Et donc, voilà un effet paradoxal de cette situation confinée. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avion dans le ciel, en particulier en Ile-de-France et à Paris, donc le ciel est clair. Deuxièmement, vous avez vu la météo de folie qu'on a en ce moment, c'est juste que du bonheur. Donc le ciel était très lumineux et la pollution a baissé de 30% dû au confinement. Alors on s'est allongé et on a regardé par la fenêtre le ciel étoilé. Et on a vu une dizaine, comme des comètes quoi, qui passaient, des étoiles filantes qui descendaient. Et en même temps, il y avait un chant d'oiseaux, des oiseaux qui chantaient partout parce qu'on pouvait les entendre. Il n'y avait pas de camions, pas de voitures qui passent comme très tôt le matin. Et vous voyez, d'avoir accepté de créer cette temporalité-là, alors ça peut demander un petit peu d'effort sur soi, mais en créant cette temporalité, en acceptant de faire ça, en sacrifiant un peu l'école à la maison ce matin, c'est un peu la vie. Eh bien, on a pu discuter, on a pu rêvasser ensemble, on a pu réintégrer un moment de poésie qu'on n'aurait pas le temps de faire en temps normal. C'est juste impossible.
Bon. Moi, je suis très très jalouse d'avoir loupé ça, du coup, mais c'est pas grave. Rien que de vous avoir écouté le raconter, j'ai eu l'impression de voir quelques étoiles, donc c'est super. Je voulais savoir aussi autre chose, effectivement, nous, on télétravaille, on est nombreux, les Français, à être dans cette situation aujourd'hui, mais on est souvent très fatigués, alors pourtant, on est quand même beaucoup moins actifs. Le télétravail, finalement, pourquoi c'est aussi fatigant, alors qu'on est quand même chez soi? Moi, je suis dans ma chambre tranquillou avec mon lit derrière, normalement, ça devrait aller, mais je suis plus fatiguée que d'habitude.
Alors, il y a plusieurs raisons à la question que vous posez et qui est vraiment importante. La première, c'est quand vous allez et vous revenez du travail, déjà vous êtes en mouvement. Donc vous avez des temps de pause qui sont naturellement intégrés, quelquefois qui peuvent être fatigants dans les transports, mais votre corps est en mouvement. Donc il y a déjà une dimension importante, et donc ça on y reviendra si vous le souhaitez, mais la notion de mouvement est essentielle. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas de temps mort. Vous enchaînez les coups de fil. Moi j'ai noté qu'au début j'étais entre 5 et 6 heures par jour au téléphone. Et c'est beaucoup plus fatigant d'être, de focaliser toute son attention sur un moyen de communication, un espace sensoriel, que quand on est face à face, qu'on se regarde, qu'on ressent la personne bouger. Il y a d'autres dimensions qui rentrent en ligne de compte. La focalisation n'existe pas. Mmh. Et enfin, la situation du confinement fait que si vous êtes confiné avec d'autres, ben, c'est pas toujours facile à gérer. Moi, j'ai des mamans qui me disent que ben, elles sont sur un Zoom, vous savez, l'application très à la mode pour faire des visioconférences, mais tout d'un coup, il y a des enfants qui rentrent derrière et donc il y a un stress pour faire attention l'ensemble du board qui écoute la conférence ne soit pas en même temps gêné par les enfants. Donc il y a des stress supplémentaires. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui font que eh ben, c'est pas du télétravail habituel déjà, mais deuxièmement, le fait de ne pas avoir de contact humain. Et on voit à quel point c'est important en cette période de confinement, à quel point nous avons, nous, les êtres humains, besoin de contact. De réaliser ça, de se mettre en relation avec notre propre humanité, nous permettra, une fois sortis du confinement, d'avoir acquis et cultivé quelque chose d'important.
Alors justement, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ce que vous proposez pour lutter contre cette fatigue en période de confinement ou tout le temps d'ailleurs, je profite pour signaler que vos livres sont disponibles à des prix exceptionnels en ce moment depuis le confinement, à 2,99€, 3,99€ en format électronique. Ceux qui étaient sortis chez Flammarion, le titre c'est La fatigue, redonnez-moi le titre, je n'ai pas noté.
Libérez-vous de la fatigue.
Libérez-vous de la fatigue, notamment, dont on avait déjà parlé, voilà. Mmh. Et les droits d'auteur seront reversés à une association qui vient en aide aux personnes défavorisées. Merci Léonard Attoni, on n'en a pas terminé avec vous, on se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, avec Léonard Attoni, nous allons passer à des choses plus pratiques que vous pouvez faire chez vous pour tirer le meilleur de la situation exceptionnelle que nous vivons. On parlera d'auto-hypnose notamment, c'est juste après. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors, il est toujours en ligne avec nous, Léonard Attoni. Vous êtes praticien en hypnose et en autodéveloppement. À présent, on va passer à vos astuces, à vos conseils pour rester bien dans ses baskets et dans sa tête, hein, finalement, pendant le confinement. Je crois que vous dites qu'appeler ses proches, c'est essentiel pour commencer. Pourquoi ?
Oui, ben, si vous voulez, je vais vous raconter l'histoire que j'ai eue juste il y a quelques heures avant qu'on se parle. Il y a une dame que j'ai eu au téléphone qui me disait qu'elle était confinée à Paris et que son papa était en très mauvaise santé. Et en discutant avec elle, petit à petit, on s'est rendu compte que le confinement crée des angoisses chez elle, qui sont normales, mais qu'elle ne prenait pas le temps de justement renouer des liens qu'elle voulait quand même prendre. Et donc, tout d'un coup, lors de la conversation, elle m'a dit « Mais c'est ça qui me manque, c'est que je dois profiter de cette période pour prendre le temps de me remettre en lien avec les gens qui comptent pour moi. » Et je trouve que c'est un vrai privilège que de renouer avec soi pour renouer avec les autres pendant ce moment. Et c'est aussi des choses qu'on ne peut pas toujours faire habituellement et dont il faudrait profiter parce que les gens ont besoin de nous. Il y a des gens qui sont seuls et de maintenir ce lien. Et nous avons un atout extraordinaire. Les technologies de l'information nous permettent de faire plein de choses pour être en lien. Ça nous permet de à nouveau rappeler à quel point nous sommes reliés à des générations, nous sommes reliés à la vie. Et c'est essentiel à cultiver. Et c'est une grande source de défatigation aussi que de revivre.
Jimmy ?
Et justement, ce lien avec les autres, on parle du coup de téléphone, c'est mieux de les avoir réellement, d'entendre le son de leur voix, que de se contenter d'SMS. C'est vrai que souvent, on a tendance, avec des applications comme WhatsApp ou simplement SMS, de prendre des nouvelles. Vous pensez que ça ne suffit pas ? Il faut avoir des mots, un son, une intonation pour qu'un lien se crée ?
Alors, Jimmy, vous avez raison, c'est très important de souligner cette dimension parce que, encore une fois, moi je trouve que l'écrit c'est formidable. On peut envoyer un petit message. Mais dans la voix, on va envoyer une musicalité, une intonation. Et même dans le silence entre deux mots, il y a une présence qui se déploie. Et ça, ce sont des choses qu'on entend par le téléphone. Et c'est très important de faire ça parce qu'on peut aussi juste être en présence. On peut partager un moment de rire. Le rire, un smiley, c'est pas la même chose qu'un rire d'éclat de voix. Et ça, c'est vraiment une chaleur aussi qui va se déployer à ce moment-là. Et un autre point que je vais vous raconter, c'est que par exemple, vous voyez, en ce moment, je suis en train de vous téléphoner. Et moi, je marche en même temps que je téléphone, tout le temps. Parce que ça me permet justement d'être en mouvement. Et la mise en mouvement permet de faire un peu d'exercice. Moi, je fais plus de 10 000 pas par jour, rien qu'en marchant chez moi.
Plus de 10 000 en ce moment, ah oui. Moi, je regarde, je suis à 7 000, je suis bloqué à 7 000, j'arrive pas à aller plus haut.
Eh bien, téléphonez en mouvement. Appelez vos proches en mouvement. Soyez en mouvement dès que vous pouvez. C'est vraiment
si on peut faire l'émission en mouvement, je vais essayer de voir avec la technique si c'est possible. On va y travailler.
Avec des cadres, c'est travailler dessus avec un cadre, vous voyez. Je pense que Jimmy Mohamed sera d'accord avec moi. C'est-à-dire, par exemple, beaucoup de gens ont des pathologies chroniques, il faut absolument qu'ils restent en contact avec leur médecin. Et quand vous avez des pathologies de type rhumatismal, la notion d'arrêt, de commencer à se rester assis toute la journée et allongé, etc., c'est très mauvais. Donc plus on est en mouvement, plus on reste en bonne santé. Et téléphoner en mouvement est une solution.
Chez vous, je crois que vous avez instauré une règle, c'est notamment, alors vous avez dit les écrans, les smartphones, tout ça, ça nous aide à rester connectés avec ce que l'on aime, évidemment, nos proches. Mais par contre, de temps en temps, il faut quand même tout couper. Alors ça vaut aussi en temps normal. Mais là, en ce moment, vous conseillez au moins pendant les repas, peut-être en famille, pas de téléphone et pendant une heure, on coupe tout. Ça permet de se retrouver finalement avec ceux avec qui on est confiné. On les voit, mais on s'entend pas, on s'écoute pas toujours, c'est ça ?
Voilà, quand on n'est pas seul et qu'on est confiné en famille, c'est très important de prendre des moments pour couper son téléphone et déjeuner. Encore, je vous rappelle que quand on mange avec son téléphone, on mange beaucoup plus, on mange mal, on n'est pas attentif à ce qu'on fait. La deuxième chose, c'est aussi de trouver des espaces non connectés. C'est pour ça que, par exemple, moi, dans la chambre des enfants, on a installé des radios pour que les enfants écoutent la radio. C'est autre chose. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'écran. Donc c'est aussi un moment
pour
découvrir aux plus jeunes.
Eh ben, c'est oui. Très bien.
Voilà, donc faisons découvrir aux plus jeunes qui n'ont pas forcément ce réflexe-là, ce média qui est très intéressant, qui est très ouvert. Et puis j'ai une des personnes avec laquelle je collabore, qui dirige, qui s'appelle Céline Dehaene, qui travaille chez Père Castor, qui est une collection de livres pour enfants, qui m'a dit qu'elle a mis en ligne, par exemple, des exercices, des petites choses à télécharger pour pouvoir faire des dessins, initier la création. Et elle me soulignait un point, elle me disait, avec l'école à la maison, on met une grande pression sur les enfants en ce moment pour qu'ils fassent des devoirs, pour pas perdre le niveau scolaire, etc. Et on comprend, c'est légitime et c'est important. Mais il faut pas oublier que nos enfants doivent aussi vivre ce confinement avec leur façon, avec leur rythme, et que de cultiver leur imaginaire, de pouvoir renouer avec le dessin, de pouvoir renouer avec un peu de jeu, c'est tout aussi important, parce que sinon ça, on remet de la tension sur une période qui est déjà suffisamment tendue.
Jimmy ?
Et on a cru comprendre que chez vous, vous avez instauré un autre petit truc à la maison, c'est regarder les photos de vacances. Ça permet de quoi ? De voyager de nouveau en famille ?
Ben, ça permet de se déconfiner. En fait, si vous voulez, nous, on a mis en place ce petit moment où on feuillette des albums, où on les regarde même sur son ordinateur, si on les a, ou sur sa tablette. Mais si vous voulez, un moment où on doit rester enfermé, et c'est un devoir, et c'est une chose importante, de pouvoir s'évader dans ces photos, de pouvoir prendre un moment, mais laissez-vous emporter par vos images. Ne feuilletez pas à toute vitesse. Prenez le temps de vous installer dans une photo, de retrouver les sensations, de sentir la lumière et de vous dire « Ah, mais tiens, ça, je me souviens. Quand je regarde cette image, paf, ça déclenche, ça trigger plein de choses dans la tête et on se souvient d'une ambiance. » Et ensuite, vous pouvez rester dans le prolongement de cette sensation, échanger, discuter ensemble de vos souvenirs. C'est un moment de déconfinement dans le confinement.
C'est déjà un peu d'auto-hypnose, non ? Tout ça aussi, c'est
oui,
on se recentre,
bien
hein, c'est ça ?
Bien sûr, on s'installe avec et puis simplement on se sert de ces photos comme souvenirs, vous voyez, et ça c'est vraiment chouette. Tout d'un coup on respire, on voit la lumière, il y a d'autres choses qui peuvent se passer.
Je crois que ce soir vous proposez un live sur Instagram à 18h sur l'hypnose écologique. Juste un mot pour terminer, pour nous dire ce que ça va être, pour ceux que ça intéresse évidemment.
Écoutez, j'ai publié un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que l'hypnose ?» il y a quelques temps, de François Roustan, et aujourd'hui il aurait eu 97 ans, et donc je vais expliquer en quelques mots comment cette hypnose sur laquelle nous avons travaillé ensemble, celle qui nous remet en lien justement avec le vivant, avec le mouvement, est essentielle, et comment est-ce qu'on peut en tirer un bénéfice aujourd'hui dans ce confinement pour justement explorer certaines nouvelles habitudes.
Mais écologique, ça veut dire quoi, hypnose écologique ?
Eh ben, il faut se souvenir que écho en grec ça veut dire maison. Vous voyez, c'est quand même intéressant en ce moment. Bien et donc l'hypnose écologique invite l'individu à reprendre possession de sa propre maison, c'est-à-dire soi-même, de se remettre en relation avec l'ensemble de l'écologie, tout ce qui l'entoure, tout ce qui vit autour de lui. Ce que j'ai constaté de nombreuses fois, qu'à force de se dissocier de ce que nous sommes, de nous dissocier du vivant qui nous entoure, eh bien, on peut partir à l'abandon. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on voit des animaux qui ressortent, on entend les oiseaux chanter. On voit que tout d'un coup, c'est assez amusant de voir que nous sommes les maîtres du jeu sur cette planète. Et c'est au moment où on se retrouve confiné, tout d'un coup la vie se remet à jaillir autour de nous, alors que tout le reste était confiné en fait. Les animaux étaient confinés, tout le monde était confiné. Et là, on peut peut-être réfléchir à une nouvelle harmonie. C'est une époque extraordinaire que nous traversons aussi de ce point de vue-là pour prendre le temps de penser la vie de demain.
Merci beaucoup Léonard Anthony d'avoir été avec nous pour nous donner tous vos conseils. Donc pour ceux que ça intéresse, évidemment l'hypnose écologique ce soir en live sur votre compte Instagram. Merci beaucoup, on va essayer d'appliquer quelques-uns de vos conseils. Merci.
Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Dans un instant, ce sera la chronique sexo de Catherine Blanc qui va aujourd'hui nous parler de ce qui peut se passer dans certains couples bien établis mais confinés avec des hauts et des bas en termes de désir, de libido, voire même des envies d'ailleurs. C'est dans quelques minutes, mais d'abord, on va écouter un peu de musique. C'est le chanteur Justin Timberlake. Ça s'appelle Can't Stop the Feeling.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. You got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it. So don't stop, stop.
Bouge avec un peu de musique sur Europe 1, ça fait du bien. C'était Justin Timberlake et son titre Can't Stop the Feeling.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour, bonjour.
Alors Catherine, aujourd'hui on va prendre la question d'Annabelle. Annabelle, elle a 34 ans et elle nous a écrit la chose suivante. Je suis en couple depuis un an, mais depuis le confinement, j'ai remis mon couple en question. Je ne ressens plus de sentiments amoureux envers lui. Ma libido avec mon partenaire est également affectée, alors que je peux avoir beaucoup de désirs pour d'autres hommes. Qu'en pensez-vous? Ça a l'air d'aller pas terrible chez Annabelle. Catherine, vous pensez que c'est vraiment à cause du confinement tout ça qu'elle remet à ce point-là son couple en question?
Je crois que effectivement le confinement fait la proximité très grande et la difficulté de trouver ce qui nous pousse à rechercher une complétude dans l'autre inévitablement. Donc il est assez classique. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter quand le désir sexuel est un peu en peine dans ce temps-là. Ceci étant, je pense que c'est aussi un moment où pour certains couples se révèle ce que la fuite que permet le travail, que permet les à côté, les relations amicales, les sorties, etc., de planquer d'une certaine manière. Là, tout d'un coup, on est face à la peut-être réalité du vide relationnel qui est à l'œuvre.
C'est ça, Catherine, parce qu'en fait, elle ressentait peut-être des choses de ce type-là avant, mais avec le confinement, tout ça s'est accentué, ces questions sur son couple et peut-être cette libido un peu finalement branlante aussi.
Voilà, c'est-à-dire que il y avait suffisamment de d'occupation à l'extérieur pour nier cette réalité et passer outre et du coup ne pas y travailler. En fait, l'erreur, c'est cela, c'est que souvent nous sommes très distraits par notre environnement extérieur, nous sommes très peu dans l'être que nous sommes et dans les relations et la profondeur des relations, nous les réfléchissons peu, nous nous laissons porter par ce qui est facile et quand il y a de quoi nous occuper et nous alimenter un peu à droite et à gauche, on finit par nier ce qui est en peine et sur lequel il nous faudrait travailler pour continuer à le nourrir, pour que la relation perdure. Et peut-être que ce qui se joue là, c'est que dans ce temps de confinement, dans ce temps d'éloignement, eh bien, elle en mesure la pauvreté. Est-ce la pauvreté du lien ou sa propre pauvreté en termes de créativité qui lui fait du coup chercher une idée de sauvegarde à l'extérieur, dans un ailleurs, vers d'autres lieux, d'autres bras, quand elle résume finalement son compagnon à la raison de son peut-être mal-être ou des primes ponctuelles de par le confinement.
Jimmy ?
Parce que je peux comprendre que la libido soit peut-être un peu en berne, ça on peut le comprendre vis-à-vis de son partenaire, mais là elle dit quand même qu'elle a plus de désir pour d'autres hommes alors qu'on est confiné. Est-ce que c'est pas tout simplement des fantasmes et un fantasme ne doit pas forcément être assouvi ?
Absolument, tous les fantasmes ne sont pas assouvis, heureusement, puisque nous avons certains fantasmes qui sont ingérables, hein, puisque certains sont agressifs, certains sont dévorants. Quand je dis dévorants, c'est-à-dire sans mesure aucune et respect de l'environnement, ah oui, ou de soi-même parfois.
Benjamin Lévesque en sait quelque chose, hein, oui.
Et voilà, c'est ça. Lui seul comprend ce que je viens de dire, c'était un message personnel. Donc, mais effectivement, tous les fantasmes ne sont pas là pour être assouvis, ils sont souvent là pour faire bouger, faire évoluer notre désir, le nourrir, lui trouver une sorte de bouillonnement intérieur. Et évidemment que entre la rêverie non accessible et heureusement non accessible et le réel plus raide, plus convenu et plus casanier, évidemment qu'il y a une marge importante. Et l'erreur serait de penser que d'un côté il n'y a plus rien quand il y aurait du tout possible, alors que d'un côté il y a en fait du rêve quand il y a en face un réel qui a besoin d'être régulièrement alimenté. Et le fantasme, lui, semble toujours en mouvement de façon assez facile, ce qui pourrait être évidemment une erreur d'interprétation.
Bon, Catherine, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour terminer très concrètement, on va dire, à Annabelle ? C'est le moment de le quitter, de réfléchir, d'essayer d'arranger les choses. Enfin, qu'est-ce que vous lui conseillez très concrètement pour son couple-là qui existe depuis un an quand même ?
Moi, je crois que soit la conversation, ce sentiment et leurs échanges étaient déjà de cet ordre-là avant le confinement, et peut-être que c'est de témoigner que dans ce temps, de ces 2 mois de confinement, finalement, nous n'avons rien fait de plus, preuve que nous ne savons pas mettre de l'énergie, et que donc il va falloir réfléchir à une énergie à mettre éventuellement dans une séparation, ou une urgence d'y remédier avant qu'il ne soit trop tard. Je pense que c'est cela. Si par contre, ce n'est qu'un sentiment qui est né dans le cadre du confinement alors que les choses étaient assez douces en amont, je crois qu'il ne faut pas faire de confusion. Peut-être qu'il ne s'agit que de la déprime de la situation qu'elle projette sur un couple et il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, pour les conseils donc pour Annabelle qui nous a écrit aujourd'hui. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Continuez à nous envoyer vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Et à présent, je vous laisse avec Mathieu Noël et son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.